بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد. Tout d'abord, pour commencer, je remercie notre petit frère Oussama qui nous a fait cette lecture du Coran. Vous devez savoir, pour chacune de vos organisations, les mosquées qui organisent, quand on essaie de désigner un frère pour l'ouverture en lisant le Coran, ça doit être Allahu A'lam, la même chose pour toutes les tâches et pour toutes les mosquées. C'est toujours la bagarre. Non, c'est toi qui vas le faire, lui, c'est toi qui vas le faire. Et nous, on a eu la même bagarre. Alhamdulillah, Oussama est venu nous voir en disant, moi j'essaie d'apprendre une sourate, est-ce que je peux la réciter? Fa biha wa ni'ma. Alhamdulillah, on aime que nos petits frères ils soient comme ça et qu'ils de eux-mêmes sont bénévoles pour faire certaines tâches. Et ça prouve que ce sont des frères, Inch'Allah, bi'ibnillah, s'ils restent sur ce chemin. On n'a pas de crainte à avoir, on n'a pas à avoir peur. On sait que la relève, elle est assurée. Et aussi, avant de commencer le sujet à propos duquel on veut parler aujourd'hui, évidemment, on souhaite la bienvenue à nos frères, en particulier ceux qui viennent de très loin. Arles, c'est loin. Galakwaqila, c'est combien de kilomètres? 1200, non? Inch'Allah. D'après ce qu'on nous a expliqué, c'est à côté de Lens. Mais après, comme c'est dans les mines, il faut encore descendre. Tout en haut. Inch'Allah. En tout cas, on leur souhaite la bienvenue. Alhamdulillah. On souhaite la bienvenue aux frères de Armentières. On souhaite la bienvenue aux frères d'Alua. Et on souhaite aussi la bienvenue aux frères de Comines. Et quand je dis Comines, évidemment, je n'oublie pas que Comines, c'est attaché à la ville de Quénoy. Il y a des frères de Quénoy, il y a des frères de Vervic, et des frères de Bouzbek, et des frères de Lens. C'est le mohim. Si je commence avec tous les villages, je ne vais pas finir. C'est bien, déjà j'ai pris 3 minutes du discours, ça va. Hein, le sujet, comme vous avez dû le voir dans les affiches, c'est l'union et non pas la division. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à propos de ce sujet? À la fois beaucoup et à la fois rien du tout. Pourquoi à la fois beaucoup et à la fois rien du tout? À la fois beaucoup parce qu'il y a énormément de choses à dire sur l'union, sur l'unité des musulmans. Et à la fois rien du tout parce qu'on a déjà trop dit, mais pas assez fait. La fraternité, l'unité, l'union, combattre la division, lutter contre la division, ne pas détester ses frères. On a déjà tout dit, mais est-ce qu'on fait quelque chose? C'est ça le sujet qu'on doit traiter aujourd'hui. On pourrait parler, et on peut parler pendant des heures et des heures. On peut faire des doros et des doros. On peut faire des interventions et des interventions à propos de l'unité. Mais la question que chacun d'entre nous il doit se poser aujourd'hui, plus que n'importe quel jour, la question qu'il doit se poser, c'est qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour contribuer à l'unité et l'union des musulmans? Est-ce que lorsque je parle, ma parole, elle contribue à unir les musulmans ou à les diviser? Est-ce que lorsque j'agis, lorsque je fais quelque chose, mon acte, il contribue à unir ou à diviser les musulmans? C'est ça la véritable question qu'il faut se poser. Et c'est autour de ça que je veux tourner dans ce sujet quand on dit l'union et non pas la division. Pourquoi nous on est ici? Pourquoi, alhamdulillah, grâce à la bénédiction qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre sur nous, pourquoi depuis des années, avec vous, à l'UA Armentières et depuis peu avec Arm, on fait ces rencontres? On s'échange. On va chez vous et vous venez chez nous. Pourquoi? Évidemment, tout d'abord, pour obtenir la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça. La première chose, c'est pour ça, pour avoir la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla. Un instant, juste un instant, pas toute notre vie. Si on a juste un instant, on sait pendant un instant qu'Allah est satisfait de nous, ça vaut mieux que toute la terre, tout ce qu'elle contient, tout ce que vous voulez d'autre. Ça vaut mieux que tout. Juste pendant un instant, tu sais, tu as la certitude. Ou alors tu entends qu'Allah Azza wa Jalla te dit, mon serviteur, je suis satisfait de toi. Wallahi, ça c'est mieux que tout. Et la deuxième raison pourquoi on fait ces rencontres, c'est pour s'entraider, pour concrétiser, réaliser, c'est-à-dire mettre en place, pratiquer la fraternité. Cette fraternité dont on parle. Alors quand on parle de l'union, on peut en parler, on peut dire Allah Azza wa Jalla a dit « Innamal mu'minuna ikhwa ». Les croyants ne sont que des frères. Taïb, t'as fait quoi pour montrer à ton prochain que c'est ton frère? Qu'est-ce que t'as dit pour lui montrer que c'est ton frère? Et pas l'inverse. Aujourd'hui, malheureusement, les musulmans, lorsqu'ils parlent entre eux, leurs paroles, elles ne font que les éloigner, que les éparpiller, que semer la haine entre eux, la discorde, la divergence, la division, et ouzid, ouzid. Leurs agissements, leur façon de faire, leur façon de se comporter, entre eux, elles ont également le même résultat. C'est ça la véritable question. Donc, premièrement, cette rencontre, c'est à ça qu'elle sert. C'est à ça qu'elle sert. S'il y a des frères, comme il y a déjà été dit, lorsqu'on a voulu peut-être rajouter une mosquée sans citer les noms à la Koulihad, puisque ce n'est pas la mosquée qui est en cause, mais peut-être juste certains frères minoritaires dans cette mosquée, et en est quand on a voulu rajouter une mosquée, et qu'ils sont venus, mais pour finir, ils ont dit, on ne vient plus, pourquoi vous ne venez plus? Parce qu'on n'apprend rien quand on fait ces rencontres. Mais nous, on n'a jamais eu la prétention de dire qu'en faisant une rencontre tous les deux mois, on va apprendre quelque chose. On n'est pas venu aujourd'hui pour apprendre. S'il y a quelqu'un d'entre vous aujourd'hui qui est venu pour apprendre, il se trompe. Aujourd'hui, ce n'est pas pour apprendre. Apprendre, c'est tous les jours. Apprendre, c'est tous les jours chez toi, à la mosquée, avec le cheikh, avec l'imam, avec le professeur. Bref, c'est tous les jours l'apprentissage. Aujourd'hui, on n'est pas venu pour apprendre. Aujourd'hui, on est venu pour mettre en pratique la fraternité. Aujourd'hui, on est venu pour mettre en pratique l'amour en Allah. C'est quoi aimer quelqu'un en Allah? Il n'y a rien qui te lie à lui. Qu'est-ce que j'ai à voir avec le frère Hamid qui vient de Arn, ou le frère Abdelrahim ou Soufiane qui me viennent de Arn? Qu'est-ce que j'ai à voir avec le frère Ibrahim qui vient de Arn ou Mounir? Qu'est-ce que j'ai à voir avec le frère Farid, Morgan, etc. qui viennent d'Almir? Qu'est-ce que j'ai à voir avec eux? C'est ça la question aujourd'hui. La seule chose qui m'a lié à eux aujourd'hui et qui a fait qu'on se rencontre ici, dans cet endroit, c'est Allah. C'est la ilaha illallah. La aqida, le dogme, la croyance en Allah. C'est ce qu'on vient faire. C'est ça notre objectif. Alhamdulillah, je pense qu'on peut prétendre qu'au moins, en faisant ces rencontres, on a réussi au moins à réaliser ça. Et c'est l'objectif, avec l'obtention de la satisfaction d'Allah, concrétiser et réaliser la fraternité, l'amour en Allah. Et c'est ça le plus important. Et la seule chose, même si on va dire peut-être beaucoup de choses à travers cette intervention, la seule chose qu'on doit retenir de cette intervention, c'est que chacun d'entre nous, et moi le premier, on rentre chez nous aujourd'hui, ce soir, on rentre chez nous et on se pose la question avant de dormir. Et on se la posera tous les jours avant de dormir. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui a contribué à unir les musulmans, à unifier leurs rangs? Qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui qui a contribué à unir les musulmans et pas à les diviser? Pose-toi cette question et tu verras. Quand je dis toi, moi je suis dans le toi. Pose-toi cette question et tu verras que malheureusement, pas beaucoup de choses. Pour le meilleur d'entre nous, il y aura quelques petites choses qu'il a fait qui aura contribué à unir. Par contre, si tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui a contribué, même si ce n'est pas intentionnellement, qui a contribué à diviser, à mettre le désordre, le trouble, la fitna, la haine entre les musulmans, là on va voir qu'il y en a beaucoup de choses. J'ai dit beaucoup de choses qui ont fait que des problèmes. J'ai dit beaucoup de choses qui ont été mal comprises. J'ai fait des choses que les gens n'ont pas comprises. Alors à chaque fois que je vais parler, à chaque fois que je vais faire, il faut que je me pose la question. Quand ils disent « tourne-toi la langue cette fois dans ta bouche avant de parler », c'est surtout pour ça. « Tourne-toi la langue cette fois dans ta bouche avant de parler », c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que les gens qui vont l'entendre, les frères musulmans qui vont l'entendre, ils vont le comprendre et ça va leur servir, ça va leur être utile, ça va leur ramener l'amour, la fraternité entre eux? Ou c'est l'inverse? Si c'est l'inverse, tais-toi! Même si tu es sûr et certain que tu as raison, même si tu es sûr et certain que ce que tu vas dire est vrai, tais-toi. Parce que la nasiha, elle ne se fait que lorsqu'elle est utile. Et si tu sais qu'en parlant, tu vas faire plus de tort que de mal, tais-toi. Si tu sais qu'en agissant, tu vas faire plus de tort que de mal, tais-toi. Et aujourd'hui, le plus grand problème qu'on a, aujourd'hui, dans nos mosquées, avec les frères qui participent à nos rencontres, et ceux malheureusement qui refusent de participer à nos rencontres pour telle ou telle opinion, peu importe, le problème, il est le même chez nous tous. Chez nous et chez les autres frères. C'est quoi? C'est qu'on ne réfléchit pas avant de parler. Est-ce que ce que je vais dire va contribuer à un bien? On ne réfléchit pas avant de faire. Est-ce que ce que je vais faire va contribuer au bien? L'autre chose qui est importante, c'est lorsque je vais à une intervention, comme aujourd'hui, on écoute, on entend quelqu'un parler. Est-ce que lorsqu'on entend l'union, non pas la division? Il faut être sincère avec nous-mêmes. Tous ceux d'entre nous qui ont lu l'affiche, le thème, l'union et non pas la division. La première chose à laquelle tu as pensé, c'est quoi? C'est à toi? Ou c'est à quelqu'un d'autre ou à un autre groupe? 99,9999% en lisant ce thème, on dit « Ah, l'union, non pas la division. » Ça parle des autres, là, de ceux qui, à chaque fois, ils se divisent. Je ne sais pas qui sont les autres, mais le mohim, dans notre tête, c'est ça qui vient. Comme si nous, on est des anges. Nous, on n'a rien à se reprocher. Nous, on a tout fait pour unir. Voilà où est-ce qu'il est notre problème. Voilà pourquoi notre communauté, on n'arrive pas à l'unir. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on le met sur l'autre. Même si c'est vrai, l'autre, il a tous ses torts. Il a beaucoup de défauts. Il fait beaucoup d'erreurs. Il contribue beaucoup à la division sans aucun doute. Mais est-ce que d'abord tu t'es posé cette question? Qu'est-ce que moi j'ai fait ou j'ai dit pour contribuer à l'union et à l'unité? Est-ce que je l'ai aidé, je l'ai enfoncé dans la division ou j'ai essayé de le ramener? Et tu verras qu'en te posant cette question, et encore une fois quand je dis en te posant cette question, je parle de moi en premier, et tu verras qu'en te posant cette question, la réponse elle sera malheureusement claire et évidente. Moi aussi j'ai contribué. Même si on va dire, allez admettons, on va être gentil, on va dire c'est lui qui a commencé, c'est pas moi, comme ils font les petits à la maternelle. Mais c'est pas moi qui a commencé. Oui, mais quand il a commencé, qu'est-ce que tu as fait? Bah moi aussi je l'ai tapé. Ah, donc quand il a commencé à diviser, toi aussi tu as contribué à diviser. Et donc toi aussi tu as ta part de responsabilité. Lorsque un compagnon était, alors que le Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'un compagnon est venu, il avait des choses à reprocher à Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Il avait des choses à propos desquelles il voulait le blâmer. Alors il a commencé à lui dire, toi, tu as fait ça et tu as dit ça et tu as fait ça et tu as dit ça. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu garde le silence. Il se tait. Il ne répond pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarde la personne qui lui reproche et il sourit. Et Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sourit et l'autre qui lui fait des reproches à lui, Abu Bakr. Il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui dit rien. Alors qu'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu s'attendait à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, t'as pas le droit de dire ça. Comment tu le critiques? Comment tu le dénigres? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il regarde avec un sourire et il se tait. À un moment, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu lui dit, là, comme il dirait nos parents, trop c'est trop. C'est la goutte et déborder le vase. Là, c'est trop. Donc Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, il a répondu. Et lorsqu'il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé les traits de son visage, car il n'était plus souriant, il s'est levé et il est parti. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, il le rattrape. Ya Rasulallah, quand il m'insulte, il me dénigre, il me méprise, il m'humilie avec ses paroles, tu as souri. Et lorsque, de bon droit, je lui réponds, tu ne souris plus et tu pars. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je souriais parce que tu étais patient. Tu étais patient face à cette injustice. Il a été injuste envers toi et tu restais endurant et patient. Et grâce à ta patience, les anges étaient autour de toi, autour de nous. Mais lorsque tu t'es mis à lui répondre, les anges sont partis. C'est plus les anges qui viennent à ce moment-là, c'est qui? Si c'est plus les anges, c'est Ash-Shayatin. Voilà pourquoi moi je ne suis pas. Agis. Et donc c'est ça la question qu'il faut se poser. Celui qui méprise, laissons-le mépriser. Est-ce que tu vas le changer? Il a toujours été comme ça. Son seul objectif, c'est de diviser. On le sait. Ça fait longtemps. Des années qu'on a parlé, on le sait. Donc maintenant, le travail, c'est nous. Il y a un travail à faire sur nous. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour unir les musulmans? Les autres, qui refusent et qui s'obstinent à ne pas comprendre et qui préfèrent se mettre à l'écart, etc., etc., laissez-les. Laissons-les. Maintenant, c'est à nous, le travail. Le prophète, alayhi salatu wassalam, une fois, Aïcha radiallahu anha lui annonce l'arrivée d'un homme. Et il dit, bi'sal ashiratuhum. Quelle mauvaise compagnie est cet homme? Cet homme, c'est vraiment un mauvais compagnon. Bi'sal ashiratuhum. Un tel arrive, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, bi'sal ashiratuhum. Quel mauvais compagnon il est. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça à son sujet? Parce que c'était quelqu'un qui était connu pour être insolent lorsqu'il parlait. Vulgaire. Il criait fort, il insultait. Il n'y réfléchissait pas avant de parler. Et le prophète a dit à Aïcha, autorise-le à rentrer. Il a commencé par dire, quel mauvais compagnon il est. C'est pas une bonne compagnie lui, parce que tu entends de lui que des choses mauvaises. Il ne sait pas parler. Taïb, il est rentré. Il est rentré, et le prophète lui a parlé avec sourire, avec sagesse, avec douceur, comme c'était à son habitude. Aïcha, radiallahu anha, ne comprend pas. Quand il arrive, bi'sal ashiratuhu, quel mauvais compagnon il est. Et quand il est là, mashallah, lui parle gentiment, alors qu'elle s'attendait au minimum à lui dire, toi Yarni, tu es une mauvaise personne, tu ne sais pas parler, etc. Comme on pourrait l'entendre chez nous, ou chez, dans certaines discussions de chez nos parents, tu ne sais pas parler, toi, tais-toi, c'est mieux. Le professeur Hassan, non. Alors, il l'a écouté, même s'il parlait mal, même s'il disait des mauvaises choses, et ensuite il l'a laissé partir. Et il l'a accueilli. Et ensuite, lorsqu'il est reparti, Aïcha radiallahu anha a demandé, pourquoi tu as agi comme ça? Le professeur Hassan m'a dit, est-ce que tu voulais que je sois comme lui? Que je lui parle à lui comme lui, il a l'habitude de parler aux gens. Si je lui reproche cette chose, pourquoi vous voulez que moi je sois comme... Vous voulez que je fasse la même chose qu'on lui reproche? On ne répond pas à l'insolence par l'insolence. On ne répond pas à l'obscénité par l'obscénité. On ne répond pas à la division par la division. Et aujourd'hui, c'est ça notre problème. Et c'est ça le cœur de notre problème. Quand on dit l'union et non pas la division, c'est de nous qu'on parle. Pas des autres. Les autres, ainsi dit, admettons, ils vont toujours chercher à diviser. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, pour nous unir, pour nous aimer en Allah, pour retrouver la fraternité qu'on a perdue? C'est ça la question qu'on doit se poser. Alors, on pourrait parler des causes. On peut parler des causes de la division. Et les causes de la division sont connues. Les causes de la division sont connues. C'est quoi? Tout d'abord, l'ignorance. Al-jahl. L'ignorance. L'ignorance. Pourquoi? Parce que l'ignorance, elle ramène à la mécréance. Comme ils disent les ulama, parmi les piliers de la mécréance, il y a l'ignorance. L'ignorance, elle ramène à la mécréance. Et la mécréance, c'est la première cause de division. D'ailleurs, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrive, avant qu'il n'y ait la prophétie, les Arabes vivaient dans la péninsule arabique, en Arabie Saoudite, dans le jahiliya, dans l'ignorance. Et ils étaient divisés entre eux. Ils ne vivaient que de la division. Ma tribu, elle est plus forte que la tienne. Ma famille, elle est plus forte que la tienne. Nous, on est les wa'ar. Vous, vous n'avez rien à voir. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui avec les quartiers. Notre quartier est wa'ar, votre quartier ne veut rien dire. Nous, c'est le quartier Chicago. Vous, c'est le quartier Nord. Ah, ça me fallait les frères d'Armentier. À commune, on va entendre, nous, c'est l'apothicaire, les autres, c'est le quartier Hollywood. Mzian. Arne, je ne sais pas, vous avez de la chance, je ne connais pas le nom de vos quartiers. À lui, on peut entendre le col bras. On est mieux que... comment il s'appelle le truc rouge là-bas? La rouge porte, voilà. Le col bras, c'est mieux que la rouge porte. Ou là, l'inverse. Agile. C'est exactement la même chose. Et bien, dans le jahiliya, c'est comme ça qu'il vivait. À un tel point que le poète Amr ibn Kulthum, il faisait ses poésies que dans le sens. Avant, les jahiliyas, c'était des grands poètes. Ils faisaient leurs poésies que dans la division. Pour montrer que c'était les plus forts, c'était les plus, qu'ils étaient encore plus injustes que les autres. À un tel point qu'il a dit dans un de ses poèmes les plus célèbres, il a dit Ala la yajhalanna ahadun alayna fa najhala fawqa jahli al-jahilina. Que personne, que nul d'entre vous ne fasse preuve d'ignorance contre nous. L'ignorance, c'est quoi? C'est un défaut. Donc il accuse les autres d'un défaut. Que personne d'entre vous ne fasse preuve d'ignorance contre nous. Parce que si c'est le cas, on va être encore pire que dans l'ignorance. Agis. Alors moi, qu'est-ce que tu dois dire? Si tu es ignorant contre moi je serai savant contre toi. Ah, mashallah. Eux, non. Tu es ignorant contre moi je vais être doublement ignorant contre toi, Mziyan. Matfout niche, comme il dirait l'autre. Tu ne vas pas me dépasser. Ça, c'est le jahiliya. Et malheureusement, on a l'impression aujourd'hui d'être revenu dans le jahiliya. Donc la première cause de la division, c'est quoi? C'est l'ignorance. Première cause de la division, c'est l'ignorance. Deuxième cause, al-hawa, ittiba'u al-hawa. Ittiba'u al-hawa, suivre ses passions. Suivre ses passions, ça veut dire quoi suivre ses passions? Ça veut dire suivre quelque chose sans la raison. Ça peut être une femme. Dans la plupart des cas, malheureusement, aujourd'hui, c'est une femme. À un tel point que le professeur Hassan disait Ma taraktu fitnatan ba'di ashadda ala rijal min fitnatin nisa. Je n'ai laissé aucun trouble plus dur pour les hommes après moi que le trouble des femmes. Tu peux parler à quelqu'un qui est dans le hub d'une femme, tu peux lui parler, il n'entend pas. Il n'entend pas ce que tu dis. Pourquoi? Parce que son cœur est envahi par... Allons de sort. On dit maman encore une fois ou là on trouve un autre nom? Parce qu'il y en a, ils vont dire, ouais, toujours il dit maman, hada, quand il parle des filles, on dirait, il y a un problème avec maman. À un tel point, je crois, on va être capable d'écrire avec tout ce qu'on a dit sur maman, des livres, on va les appeler les aventures de maman. Tout ce qu'on lui a fait faire, Miskina, dans cette mosquée, à chaque fois qu'on parle des filles, on prend comme exemple maman. Ala kulli hal. Suivre ses passions. Le prophète sallam disait: La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant que lorsque sa passion suivra ce que moi j'ai dit, ce que j'ai fait. Lorsque ta passion, elle sera pour la révélation qui a été donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, là sache que tu es un véritable croyant. Mais lorsque tu dis au frère Yahya, Allah azza wa jal, il t'a interdit de sortir avec une fille avant le mariage. Non, mais akhi, là c'est pas la même chose. Là c'est différent. Je sais que c'est haram, mais pour moi, t'inquiète, moi je sais ce que je fais. Et subhanallah, tout le monde, tous ceux qui sont dans ce cas-là, ils disent la même chose. Non, mais moi, t'inquiète. Je sais, mais moi, c'est pas... Déjà, moi, je fais pas des choses graves. Je fais pas le haram. Yani, c'est juste vite fait. Il sort avec elle, mais c'est vite fait. Yani, si je l'embrasse, c'est vite fait. Si je lui envoie des messages dans lesquels je dis je t'aime, c'est juste vite fait. Yani, tout y est vite fait avec lui. Agile. Pourquoi? Parce qu'il est, yani, noyé dans sa passion. Et tu peux lui dire ce que tu veux, il ne t'entendra pas. Il ne t'écoutera pas. Il entend en fonction de Manon. Il voit en fonction de Manon. Il ressent avec son cœur en fonction de Manon. Pourquoi? Parce que son iman, c'est Manon. Sa foi, c'est Manon. Allah Azza wa Jalla dit, il nous dit, « قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَيَا وَمَمَاتِ لِمَنْ » Pour qui? لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ. Lui, il dit, « Manon, c'est pour Manon tout ça. » Ma prière, mes rites, ma vie, ma mort, c'est pour ma nom. Agis. Wallahi, ça nous fait rire, wallahi, regardez bien. Et j'espère que personne d'entre nous est dans ce cas, parce que wallahi, c'est une grave maladie. Cette maladie que j'aime appeler pour plaisanter, mais c'est véritablement le cas, la pathologie du hubbismig. Wallahi, ikhwan. Wallahi. Quand tu parles aux frères qui sont atteints par ce problème, tu te rends compte à quel point c'est un grave danger. Tu te rends compte à quel point, et on n'avait pas de doute à ce sujet-là, tu te rends compte à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raison lorsqu'il dit « Je n'ai pas laissé de trouble plus dur et plus difficile après moi que le trouble, la tentation des femmes. » Les femmes. C'est une chose. La femme, c'est une chose. Ah oui, s'ils nous entendaient ce qu'on disait. Vous avez entendu ce que j'ai dit? La femme, c'est une chose. La femme, c'est un être humain, d'Allah. S'ils nous entendent à l'extérieur. Donc j'allais dire la femme, c'est une chose. Plutôt c'est un être humain. Mais c'est une tentation qui est capable de changer un individu. Qui est capable de faire de quelqu'un qui a cité un hizb, faire de lui quelqu'un qui n'a plus aucun hizb. Il n'y a plus rien. Tu lui dis, Arad, Manon, 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 Manon. Le Fatiha, elle est où? Là, c'est pas Fatiha, c'est elle s'appelle Manon, elle ne s'appelle pas Fatiha. Wallahi, sans raconter les histoires personnelles de certains frères qu'on a connus, wallahi, certains, et ça nous fait rire, ils étaient là avec nous. Ils étaient là à chaque rencontre. Ils étaient les premiers dans la mosquée. Ils étaient à ma place. Donc c'est un danger qui peut me toucher moi et qui peut toucher n'importe lequel d'entre nous. Et pourtant aujourd'hui ils ne sont plus là. Pourquoi? Quand tu vas vérifier, tu vois qu'il y a une Manon. Même si elle ne s'appelle pas forcément Manon, le Mohim, il y a une Manon qui s'est infiltrée dans sa vie. Donc ça peut arriver à n'importe qui. Mais pourquoi je parle de ça? Ce n'est pas notre sujet. Pourquoi je parle de ça? C'est pour dire que la passion, c'est une des causes de division. Mais la passion pour qui? La passion pour qui elle va nous diviser? Ça peut être une passion pour les femmes qui va nous diviser. Mais en premier lieu, c'est la passion pour quoi? Pour qui? Pour les savants. Pour les savants. Pourtant, les savants, c'est des gens bien. C'est des gens de vertu. C'est des gens qui nous apportent la science. Mais être passionné, aveuglé, fanatisé par un savant, quel qu'il soit, quelle que soit sa science, c'est là le début de la fin. C'est là la première cause de division. Et aujourd'hui, on le voit. Pourquoi? Parce que quand toi, tu dis un tel cheikh, il a dit, l'autre, il va te dire, subhanallah, lui, il ne faut pas écouter de lui. Moi, j'écoute que de lui, et lui, il a dit qu'il ne faut pas écouter de lui. On est où, là? Et l'autre, c'est pas un savant? T'es qui, toi? Rappelle-toi, t'es qui? Rappelle-toi d'abord, comme il dirait notre frère Omar, il n'est pas là aujourd'hui, Marlich. Est-ce que tu as déjà fait une VDS, d'abord? Il n'y en a que quelques-uns qui ont compris, Marlich. Pour pas donner le mot, qu'est-ce qu'il veut dire? Pour pas être vulgaire, on va dire, est-ce que tu as vérifié si tu sais faire l'istinja ou pas? Avant de parler des savants? Mais à quel niveau on est arrivé? À quel niveau on est arrivé? Aujourd'hui, on va parler des savants comme l'Albani, l'Uthaymin, l'Qaradawi, Hafidahumullah. On va parler d'eux, on va les dénigrer. Moi, je connais rien. Moi, je n'écoute pas de lui. T'es qui, toi? T'es qui toi pour pas écouter de lui? T'es qui toi? Qu'est-ce qu'il te dit? Il t'appelle au coffre? Il t'appelle à la mécréance? Il te dit va faire zina? Il t'appelle à faire quoi lui? À l'aqal, même si tu es persuadé qu'il ne faut pas l'écouter, juste par respect, ne sors pas cette phrase. Ne dis pas, moi, je n'écoute pas un tel. Juste pour te rappeler à quel niveau t'es, au moins cette phrase ne la sors pas. Même si tu veux appliquer ça, ne pas l'écouter, c'est ton droit. Mais au moins par respect, ne sors pas cette phrase. Pour te rappeler où t'es, ne sors pas cette phrase. J'écoute pas un tel ou là, j'écoute pas un tel. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah disait, il l'a dit en 96, aux États-Unis, quand il a fait un dars là-bas, lorsqu'il est parti se faire soigner. Il a dit, vous imaginez-vous, hein, il a parlé de ça il y a 16 ans, en 96. Il dit, l'île Asaf, malheureusement, aujourd'hui, certains jeunes prennent certains savants comme des symboles. Et ils n'aimeront les personnes qu'en fonction des personnes que leurs savants aiment. Et ils ne détesteront les personnes qu'en fonction des personnes que leurs savants détestent. Parce que malheureusement aujourd'hui, certains d'entre nous pourraient utiliser des paroles de l'Uthaymin rahmahullah pour lui faire dire le contraire de ce qu'il a dit. Écoute bien. Malheureusement, beaucoup de jeunes aujourd'hui prennent des savants comme symbole et ils n'aimeront les personnes et les savants qu'en fonction des personnes et des savants que ce savant aime. Et ils ne détesteront les personnes et les savants qu'en fonction des personnes ou des savants que ce savant déteste. Et il dit, et ça, ça ne peut que causer la division dans les cœurs et la haine. Ça ne peut que causer la division dans les cœurs et la haine. Suis le savant dans son avis, dans son opinion, dans le fiqh. Dans son opinion, dans le wudu. Dans son opinion, dans la façon de faire la prière, de faire le hajj. D'accord. Mais lorsque le savant commence à te dire, un tel, je mets en garde contre lui, là c'est un autre domaine, qui n'est pas le nôtre. C'est un domaine qui regarde qui? Qui regarde les spécialistes du hadith. Ce qu'on appelle ulama al-jarh wa al-ta'dil. Et la première règle que tu apprends, toi qui te permet de mettre en garde contre des savants, toi qui te permet de dire tel savant je ne dois pas écouter, la première règle que tu apprends dans le jarh, dans la mise en garde, c'est la règle qui a été donnée par Shamsuddin Zahabi dans son livre Siyar wa'alam al-Nubala. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'est en aucun cas permis de prendre la mise en garde d'un savant quand il l'a fait à propos d'un autre savant qui a vécu à la même époque que lui. Khalas. Pourquoi? Parce que s'il a vécu à la même époque, ça reste un savant, donc il y a peut-être un soupçon de concurrence entre eux, de jalousie, parce que ça reste des êtres humains. On n'accuse personne de jalousie, on n'accuse personne de haine entre les savants. Voilà qu'il étant donné qu'il y a ce soupçon, c'est une règle dans le jaf, on ne prend pas la mise en garde d'un savant quand il l'a fait à propos d'un autre savant de son époque. Et aujourd'hui, toutes les mises en garde qui sont prises, c'est à propos d'un savant qui a été donné à propos d'un autre savant qui vit à son époque. Lorsqu'un savant est décédé, et qu'on a toute sa vie, on sait tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a écrit, là les savants ils se penchent sur son œuvre, sur l'œuvre de sa vie. Et ils disent ce savant-là, mashallah. Ils font une conclusion, mashallah ce savant, il faut l'écouter. Un autre savant, c'est vrai qu'il y avait de la science, mais malheureusement il a appelé à l'égarement, il a appelé au shirk, il a appelé à l'innovation, donc lui on le met de côté. On ne peut le savoir qu'à la fin de sa vie. Donc déjà, quelqu'un qui te met en garde contre un savant, lorsqu'il est vivant, on ne peut pas mettre en garde contre lui. On parle évidemment des savants de Al-Sunnah wal-Jama'a. On ne parle pas des savants des sectes. On parle des savants de Al-Sunnah wal-Jama'a. Comment les compagnons ils agissaient entre eux? Comment ils agissaient entre eux lorsqu'il y avait Irtilat? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam agit avec eux lorsqu'il y avait divergence entre eux? Vous connaissez tous l'histoire de lorsque le prophète sallam a ordonné aux compagnons de se rendre à la tribu juive de Bani Qurayza. Et il leur a dit aux compagnons, lorsqu'ils sont partis vers Bani Qurayza, il leur a dit que nul d'entre vous ne prie l'Asr, c'était pas encore la prière de l'Asr, que nul d'entre vous ne prie la prière de l'Asr car Bani Qurayza. Les compagnons sont partis, ils ont commencé la bataille. Mais c'était une forteresse, elle était difficile à prendre. Ils étaient assiégés, ils avaient du mal à la prendre. Et l'heure de l'Asr est arrivée. Et des compagnons, ils ont dit, vous vous rappelez, le prophète Hassan a dit que nul d'entre vous ne prit l'Asr que lorsque vous serez arrivé à l'intérieur de Bani Qurayza, que lorsque vous aurez pris leur forteresse. Donc ils ont dit, il ne faut pas prier. Il faut d'abord prendre la forteresse et après on priera. Les autres, ils ont dit, non, c'est l'heure, il faut prier. prophète sallam a voulu dire ça pour nous dire, yani, il faut vous dépêcher de combattre et de les vaincre. C'est ça qu'il a voulu dire, c'est pas qu'il a voulu dire laissez-leur passer. Alors il y a des compagnons qui ont prié et d'autres qui n'ont pas prié. Lorsqu'ils sont revenus auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont expliqué la divergence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'il avait raison. Parce qu'il y a toujours dans une divergence, il y a toujours quelqu'un qui a raison. On ne dit pas que tous les deux ils peuvent avoir raison, c'est pas possible. Il a dit qu'il avait raison. Mais il n'a pas rejeté ceux qui avaient. Vous avez fait n'importe quoi. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit et ce que j'ai dit. Mais vous n'avez rien dans la tête. Ah ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a corrigés. Et il leur a dit, mais vous êtes quand même récompensés parce que vous avez fait un ijtihad. Vous avez eu tort, mais votre intention c'était d'avoir raison. Pour vous, c'était selon ce que vous avez compris, selon ce que vous avez entendu, c'était ça la vérité. Donc vous êtes quand même récompensés. Alors pourquoi tu ne le fais pas avec les savants? Et les savants, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce sont les héritiers des prophètes. Pourquoi tu ne le fais pas avec les savants? Pourquoi tu ne fais pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec les compagnons? Tu ne le fais pas avec les savants. Et que tu prétends suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu prétends suivre le kitab wa sunnah. Pourquoi tu ne fais pas comme le prophète alayhi wa sallam? Et ça, ya ikhwani, c'est de tout temps, c'est connu. Les troubles, les divisions, c'est connu de tout temps. Et on va terminer là-dessus. Ça a commencé avec les compagnons. Lorsque Uthman ibn Affan, le troisième calife, s'est fait assassiner. Il s'est fait assassiner, ya ibadallah. Sa maison, elle a été assiégée, vous imaginez? Le compagnon qu'on appelait Dhun Nurayn, l'homme de lumière. Le compagnon qu'on appelait Sahib al-Hijratayn, l'homme des émigrations. Le compagnon à propos duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est promis au paradis. Parce qu'il a acheté le puits de Ma'ouna, Bi'ru Ma'ouna, et il a financé la bataille de Tabouk. Et malgré cela, des gens qui ont été troublés par un juif qui s'appelait Abdullah ibn Saba, qui a fait exprès de se convertir à l'islam, il a réussi à leur mettre dans la tête que c'était une mauvaise personne, qu'il était injuste, ils ont assiégé sa maison, jusqu'à un moment ils sont rentrés chez lui, sans rentrer dans les détails, Mouhim, ils l'ont assassiné alors qu'il jeûnait ce jour-là et qu'il lisait le Coran. Et à partir de ce moment-là, les troubles ont commencé entre les compagnons. Les juifs ont réussi à s'infiltrer entre les compagnons et à semer la division. Voilà, comment ils agissaient entre les compagnons? Même s'ils se divergeaient. Et même s'ils se combattaient, ils se sont entretués. Naam, les compagnons se sont entretués. Avec l'épée, ils se coupaient les têtes, ya ibadallah. Et malgré cela, ils pleuraient. Ils étaient arrivés à un point de non-retour, ils ne pouvaient plus faire marche arrière. Mais ils pleuraient en voyant ce qu'ils faisaient. En voyant ce qu'ils étaient obligés de faire. Lorsqu'il y a eu la bataille du Jamal, Ma'arakat al-Jamal. Ma'arakat al-Jamal, pour bien yarnir. Brièvement pour comprendre de quoi on parle. C'est lorsque on a prêté serment d'allégeance au quatrième calife, Ali ibn Abi Talib. La femme de Uthman ibn Affan, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ses doigts. Pourquoi? Parce que ses doigts, ils ont été tranchés. Lorsqu'elle a essayé de défendre son mari Uthman, il y a quelqu'un qui est venu avec l'épée, il lui a tranché les doigts. Elle a pris ses doigts, les amis, dans un habit. Dans quel habit? Dans le qamis qui portait Uthman, qui était taché de sang. Elle l'a attaché et elle l'a envoyé à qui? Au cousin de Uthman, Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui était en Syrie, à Damas. Pour lui dire, tu es son cousin, et dans l'islam, il y a cette loi. La famille de la personne qui est tuée injustement, ils ont le choix entre faire tuer la personne ou recevoir une rançon. Ou pardonner, ils ont le droit de pardonner. C'est la famille qui décide. Le juge islamique, il doit donner le choix à la famille. Donc elle a envoyé ça, elle leur a dit, regarde ce qu'ils nous ont fait. Et entre temps, à Médine, Ali ibn Abi Talib a été désigné calife. Muawiyah ibn Abi Sufyan, quand il a vu cet habit, Uthman ibn Affan, Dhun Nurayn, Sahib al-Hijratayn, cet habit taché de sang, les doigts de son épouse. Il dit à Médine qu'on s'occupe de nommer Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, que j'aime en Allah. On s'occupe de le désigner calife, et regardez ce qu'on a fait à Uthman ibn Affan. Il l'a attaché au minbar de la mosquée de Damas, pour que tout le monde le voie au Jumu'ah. Et il s'est mis à pleurer comme un enfant. Il dit, regardez ce qu'ils ont fait. Prêtez-moi serment d'allégeance. Pourquoi? Pour être calife? Non! C'est Ali qui doit être calife, personne d'autre. Sur ça, on est d'accord. Voilà qu'il prêtez-moi serment d'allégeance pour que je réclame le sang de Uthman. Pour que je réclame au calife Ali le sang de Uthman. Et nous ne prêterons serment d'allégeance officiellement à Ali que lorsqu'il nous vengera des assassins de Uthman. Mais Ali ibn Abi Talib, il faut le comprendre. Il était à Médine, et les gens, qui étaient des centaines, qui s'étaient rebellés contre Uthman, il n'y en avait pas que deux. Il y avait des centaines à Médine. Ils avaient un groupe, ils étaient des centaines. Ils étaient à Médine. Il dit, je ne peux rien faire. Il y a trop de gens. Il faut d'abord unifier les rangs, et lorsque tout le monde aura compris dans quelle situation on est, on pourra isoler ces personnes et les yani réclamer notre droit. Mais pour l'instant, je ne peux pas faire ça. Talha ibn Ubaydillah et Zubayr ibn al-Awwam, ils sont venus voir Ali ibn Abi Talib. Et lui ont demandé la même chose. Et lui, il a dit pas tout de suite, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Talha ibn Ubaydillah et Zubayr, ils sont partis voir Aïcha qui était partie faire le hajj à la Mecque. Et ils ont dit à Aïcha, il faut que tu nous aides à ce qu'on réclame aux gens, qu'ils réclament au calife Ali, qu'ils fassent exécuter les assassins de Uthman. C'est pas normal, on peut pas vivre comme ça en les voyant nous marcher, ils se moquent de nous, ils ont assassiné Uthman hier et ils sont là, ils marchent dans les rues, ils sont en liberté, c'est pas normal. Donc Aïcha radiallahu anha, avec Talha et Zubayr, ils sont partis en Irak pour regrouper les gens, pour leur dire, il faut qu'on aille réclamer à Ali ibn Abi Talib qu'il fasse arrêter les assassins. Ali ibn Abi Talib, entre temps, il est mis au courant que Aïcha radiallahu anha, avec Talha, avec Zubayr, ils sont partis en Irak, ils regroupent des gens, et on lui explique mal la chose, on lui dit, regroupe les gens contre toi, ils ne veulent pas te prêter serment d'allégeance. Donc Ali ibn Abi Talib, il prend une armée et il part. Mais il ne fait pas la guerre. Il envoie le Qa'qa' ibn Amr. Qa'qa' ibn Amr, c'est un compagnon. Il y a divergence il y a entre les historiens, mais qui disent qu'il est né après la mort du prophète, donc ce n'est pas un compagnon. Et il y en a qui disent que c'est un compagnon. Qa'qa' ibn Amr va, il a été envoyé par Ali auprès de Talha, Aïcha et Zayd, le troisième, Az-Zubayr. Ils lui disent, pourquoi vous êtes venu ici? Et Aïcha radiallahu anha lui répond, Wallahi ma ji'nahu ila huna illa l'sulh. Wallahi, je jure par Allah que nous ne sommes venus ici que pour la réconciliation. Nous sommes venus ici pour réconcilier entre les musulmans, c'est-à-dire faire arrêter les assassins de Uthman afin que la communauté se calme. Il y en a plein qui sont dégoûtés. Les assassins de Uthman, ils sont toujours là, ils l'ont tué, ils n'ont aucune sanction. Qu'est-ce qu'il a fait Abdullah ibn Saba? Avant ça, le Qaqa' ibn Amr, il a donné son avis à Aïcha, il a dit le mieux, c'est que vous rentrez chez vous. Et moi je vous donne la garantie que Ali va faire arrêter les assassins, mais il ne peut pas le faire maintenant. Il leur a expliqué la situation. Et Aïcha radiallahu anha et Talha et Zubayr, ils ont dit on rentre chez nous. Classe, on a compris, on rentre chez nous. Tant qu'Ali va le faire, c'est bon. Nous on pensait qu'il ne voulait pas le faire. Mais maintenant qu'on sait qu'il va le faire, c'est bon, on va rentrer chez nous. Donc ils ont passé la nuit chacun dans leur camp, et le lendemain ils allaient rentrer chez eux. Et Abdullah ibn Saba réunit les gens qui ont assassiné Uthman en Irak. Et il leur dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils ont réussi à se réconcilier. L'union et non pas la division. Ils ont réussi à se réconcilier. Demain matin, on est foutus. S'ils arrivent à se réconcilier ces deux parties, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous tuer, nous, parce qu'ils disent qu'on a assassiné Uthman. Alors les gens qui ont été avec lui, certains lui ont dit, on n'a qu'à tuer Ali. Comme ça, on se débarrassera d'Ali, puisque c'est lui le calife. Abdullah ibn Saba, il leur dit, mais vous êtes bêtes ou quoi? Nous justement on a tué Uthman en disant exprès, en disant semblant, on préfère Ali. Et maintenant on va tuer Ali. Donc là les gens ils vont voir de manière flagrante qu'on a menti. On ne peut pas assassiner Ali. Ils vont dire alors qu'on fait quoi? Il a dit on va diviser notre armée en deux. Et en plein milieu de la nuit, pendant que tout le monde dormira, une moitié elle combat par surprise l'armée de Aïcha et l'autre moitié elle combat l'armée de Ali. Comme ça ils vont penser que c'est les autres qui viennent les attaquer. Et c'est ce qui s'est passé. Chaque camp a été attaqué par le groupe de Abdullah ibn Saba. Et ils pensaient que c'était l'autre qui les avait trahis. Et donc les deux camps se sont combattus. Il y a eu énormément de morts parmi les compagnons. À un tel point que Talha est assassiné. Il a été tué dans cette bataille. Zubayr a été tué dans cette bataille. Et Aïcha radiallahu anha, elle a failli être assassinée aussi. Et au matin, lorsque la bataille elle a arrêté, que Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu va venir dans le champ de bataille, qu'il va voir tout ce qui s'est passé, qu'il va voir Talha, criblé de flèches et de lances, dans une flaque de sang. Et qui va voir Az-Zubayr dans le même état. Il va mettre ses mains sur la tête et il va se mettre à pleurer. Il va dire, Ya Allah, Wallahi ma lam urid hada. Wallahi lam urid hada, Wallahi lam urid hada. Ya Allah, Wallahi que je voulais pas ça. Wallahi que je voulais pas ça, Wallahi que je voulais pas ça. Aujourd'hui, nous, si notre ennemi, notre adversaire, y est tué, Masha'Allah, c'est bien. Débarrassé, maintenant j'ai le champ libre. Alors que les savants, les compagnons, même s'ils étaient amenés à faire des choses parce qu'il y a eu des divisions, dans leur cœur ils restaient unis. Et les savants, c'est la même chose. Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ibn Taymiyyah, on raconte qu'à son époque, il y avait un savant. Et lui, Ibn Taymiyyah et ce savant, ils se balançaient des livres de mise en garde. Ibn Taymiyyah, il mettait en garde contre lui. L'autre, il mettait en garde contre Ibn Taymiyyah. Et quelquefois, ça allait jusqu'aux insultes. Et donc, évidemment, les gens qui ne comprennent pas, quand ils lisent un livre, et ils voient qu'Ibn Taymiyyah a traité un tel, ils disent, ah là, il ne faut pas l'écouter, parce qu'Ibn Taymiyyah, comment il l'a traité? C'est pas comme ça. C'est dans la ferveur de la plume, on est amené à dire certaines choses qu'on ne pense pas forcément. Et même si on le pense vraiment, c'est entre les savants, et entre les savants, ils ne sont pas infaillibles, peut-être qu'ils se trompent. Lorsqu'il est mort, cet individu, un des élèves d'Ibn Taymiyyah est venu le voir, il lui a dit, un tel, non, il lui a dit, ton ennemi, aujourd'hui je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Ton ennemi, un tel, est décédé. Il est mort. Subhanallah. Ibn Taymiyyah, il lui dit, subhanallah, tu viens m'annoncer une bonne nouvelle. Mon ennemi est mort. Une bonne nouvelle et ennemi. Tu penses que pour moi c'est une bonne nouvelle et tu penses que c'est mon ennemi. Qu'est-ce que tu disais quand tu disais attention à ce qu'il dit, il ne faut pas l'écouter quand il a dit ça, il a fait une grave erreur, il appelle à l'innovation, etc. Subhanallah. Tu viens m'annoncer pour toi une bonne nouvelle, un individu musulman. Quel que soit son passé, quelles que soient ses erreurs, quelqu'un qui disait La ilaha illallah Muhammad Rasulullah est mort et pour toi c'est une bonne nouvelle, tu viens de l'annoncer. Allez, viens, viens avec moi. Ibn Taymiyyah lui dit viens avec moi pour l'éduquer, pour lui montrer. Ils sont partis où? Il est parti voir les enfants, la famille de ce savant, de cet homme qui était décédé. Ibn Taymiyyah leur a présenté les condoléances. Il s'est assis, il s'est mis à pleurer. Et son élève, il raconte, il dit, jamais je n'ai vu autant pleurer Ibn Taymiyyah pour la mort d'un homme, comme il a pleuré pour cet homme. Et pourtant, il avait plein d'amis qui sont morts, il n'a jamais pleuré autant. Parce que lui, il y a vraiment raison de pleurer pour lui. Avec tout ce qui s'est passé avec lui, il y a raison de pleurer pour lui, pour sa mort. Est-ce que c'était lui qui avait raison ou moi? Allahu a'lam. Voilà pourquoi il pleurait Ibn Taymiyyah, rahmahullah. Et il s'est mis à pleurer. Et avant de partir, il s'est levé, il a dit à ses enfants. Imaginez-vous, pendant toute une vie, il s'insultait lui et l'autre homme. Il se mettait en garde. Il a dit à ses enfants, vous croyez peut-être que votre père est mort et que vous n'avez plus de père. Sachez qu'aujourd'hui, vous avez un père. C'est moi. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Si vous avez besoin d'un père, ce sera moi, le père qui remplacera votre père. Et il est parti. Voilà les savants, comment ils étaient réellement. C'est ça qu'il faut regarder. Alors après, si on prend les mises en garde, on n'a pas fini. On va terminer sur ça. Ibn Hazm, rahimahullah, c'était un savant andalou qui vivait à Cordoue. Ibn Hazm, rahimahullah, c'était quelqu'un qui était connu lorsqu'il parlait, yani, il ne pesait pas ses mots. Quand il parlait sur les savants, lui-même c'était un savant. Il ne pesait pas ses mots. À un tel point qu'un savant qui s'appelle Abu al-Abbas ibn al-Arif disait à son sujet « Kana Saif al-Hajjaj wa lisan ibn Hazm wa lisan ibn Hazm shaqiqayn » Il disait le sabre de l'Hajjaj et la langue d'Ibn Hazm, c'était des frères. Hajjaj, vous connaissez, c'est quelqu'un qui a tué des gens injustement. Et il dit la langue d'Ibn Hazm et l'épée de l'Hajjaj, c'était des frères, tellement ils ont fait le même niveau de tort et le même mal. Pour vous montrer l'intensité de l'éloquence d'Ibn Hazm lorsqu'il insultait ou lorsqu'il mettait en garde. À un tel point qu'Ibn Hazm, de son vivant, il s'est mis tout le monde à dos. Tous les savants de Madhhab Malik, et c'était le Madhhab Malik qui était majoritaire en Andalousie, comme au Maghreb, il se les a mis à dos. À un tel point que les savants du Madhhab Maliki sont partis voir les rois de l'époque, de l'Andalousie, et ils ont mis en garde officiellement dans tout l'État contre Ibn Hazm. Et il a été exilé dans un petit village, il n'avait pas le droit de sortir de ce village. Et ils ont rassemblé ces livres à Ibn Hazm. Tous les livres qu'il a écrits de sa plume, ce n'est pas les livres qui ont été édités. C'est-à-dire qu'à l'époque, le savant, ils avaient des sortes de gros registres, ils écrivaient eux-mêmes. Et ils étaient gardés par leurs élèves après, et c'est après que Yarni se sont reproduits les livres. Et c'est pour cette raison qu'on n'a plus beaucoup de livres d'Ibn Hazm, parce qu'ils ont pratiquement tous été brûlés, sauf ceux qui ont pu cacher. Ils ont pris tous ces livres, ils les ont mis en place publique et ils les ont fait brûler. Et qu'est-ce qu'il disait Ibn Hazm à ce sujet? Il a fait un poème à ce sujet, il disait إن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي yanzilu in anzilu wa yudfanu fi qabri. Da'uni min ihraqi raqqin, da'uni min ihraqi raqqin wa kaghidi, wa qulu bi'ilmin kay yara an-nasu man yadri. Il disait dans ce poème, si vous brûlez les registres, vous ne brûlez pas ce qui est contenu dans le registre parce qu'il est dans ma poitrine. Vous pouvez brûler ce que j'ai écrit dans le registre, mais vous ne brûlerez pas ce qui est contenu parce que ce qui est contenu il est dans ma poitrine. Ça, vous ne pouvez pas le brûler. Et ensuite, ce qui est contenu dans ma poitrine, ce que j'ai écrit, il va avec moi là où je vais. Là où je m'arrête, il s'arrête. Et lorsque je mourrai, il sera enterré avec moi dans ma tombe. Donc même si vous me tuez, il sera avec moi. Vous n'aurez rien résolu. Ibn Hazm a dit, vous ne pourrez jamais enlever ça de la bouche des gens. Même si vous me tuez, khlas. Et ensuite il termine par dire, alors arrêtez donc de brûler les feuilles et les papiers. Arrêtez de brûler les feuilles et les papiers, ça ne sert à rien. Mais venez et parlez avec la science afin que les gens sachent qui c'est. Véritablement. Est-ce que c'est vous qui avez la science ou moi? Ça revient à quoi? Ça revient à la cause de la division, l'ignorance. On va s'arrêter là-dessus. Mais la seule chose, inshallah, qu'il faut retenir, c'est ça. En quoi nous, on a contribué à unir la communauté d'islam. Pas les autres. Arrêtons avec les autres. C'est fini les autres. Nous. En quoi nous, on contribue dans nos paroles et dans nos gestes à contribuer à l'unité, à l'union de la communauté d'islam. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك